Radio France Internationale, il est 5h à Paris, 6h à Gaza. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Grégoire Morelli. Bonjour Grégoire.
Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous. L'enclave palestinienne où le Hamas a publié une nouvelle vidéo hier soir d'une soldate israélienne qui appelle son gouvernement à agir pour obtenir sa libération, alors que dans le même temps des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de l'État hébreu pour exiger du Premier ministre Benjamin Netanyahou un accord avec le Hamas pour obtenir la libération de ses otages. Les négociations indirectes entre l'État hébreu et le Hamas ont d'ailleurs repris. À suivre également cette rencontre entre le président argentin et l'opposant vénézuélien Edmundo González Urrutia. Celui qui revendique sa victoire face à Nicolas Maduro à la présidentielle a été reçu à la Casa Rosada à Buenos Aires, où de nombreux Vénézuéliens en exil étaient venus lui apporter leur soutien. Nous serons aussi au Maroc, où les cas de rougeole se multiplient. Depuis octobre 2023, près de 20 000 cas ont été recensés et un peu plus de 100 décès, dont la moitié concerne des enfants de moins de 12 ans. Dans la bande de Gaza, 5 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés dans une attaque israélienne contre un groupe de personnes dans le camp de réfugiés de Jabalia. Les forces israéliennes ont également bombardé un véhicule dans le sud de Ran Younes, tuant 6 gardes de sécurité palestiniens. Le Hamas, lui, je vous le disais, a diffusé hier soir une vidéo non datée d'une soldate israélienne de 19 ans enlevée le 7 octobre 2023 dans la base militaire de Nahal Oz. Liri Elbag appelle son gouvernement à agir pour obtenir sa libération. Et hier soir, des manifestations se sont déroulées dans des villes israéliennes pour faire pression sur leur gouvernement, pour que ce gouvernement justement accepte le principe d'une trêve à Gaza, à Jérusalem.
Guerre psychologique pour certains, mais la famille de Liri Elbag demande à Benjamin Netanyahou de poursuivre la négociation jusqu'à la conclusion d'un accord qui permette la libération de la jeune soldate. La vidéo diffusée par le Hamas redonne un peu d'espoir aux proches des otages et aux dizaines de milliers de manifestants à travers le pays venus comme un hâte apporter leur soutien.
On pourrait espérer qu'il y ait un accord. Mais je n'y crois pas beaucoup. On aurait dû arrêter la guerre hier et ramener tous les otages avant-hier et vivants. On n'a pas besoin de Gaza.
Mais nombreux aussi sont ceux qui redoutent une fois de plus l'échec des pourparlers. Au dernier moment, l'activiste Orly Barlev accuse le Premier ministre israélien de torpiller les efforts pour libérer les otages retenus à Gaza depuis 456 jours.
C'est quelque chose qui se produit à cause d'une personne, Netanyahou. S'il le voulait vraiment, il serait tout cela depuis longtemps. Pour des motifs criminels liés à sa survie politique, il sacrifie les otages, des civils et des militaires, nos frères et sœurs.
Israël a confirmé samedi soir la reprise des négociations indirectes avec le Hamas et la poursuite des efforts en cours pour libérer les otages. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Concernant ces négociations, le Hamas a indiqué que les discussions porteraient notamment sur une cessation complète des hostilités et le retrait des troupes israéliennes du territoire palestinien. Mais en parallèle de ces pourparlers, le président américain Joe Biden a proposé une vente d'armes de 8 milliards de dollars à l'État hébreu, une vente qui intervient seulement 2 semaines avant que Joe Biden quitte ses fonctions. À savoir également qu'au Yémen, la chaîne de télévision Al Masira, affiliée aux Houthis, a rapporté 3 attaques menées par des troupes américaines et britanniques dans le nord-ouest du pays. Israël annonce pour sa part avoir intercepté un missile envoyé en provenance du Yémen avant qu'il puisse pénétrer sur le territoire israélien. L'opposant vénézuélien Edmundo González Urrutia, qui revendique sa victoire lors de la présidentielle de juillet 2023, a été reçu hier à Buenos Aires par le président argentin Javier Milei. Première étape d'une tournée latino-américaine pour l'opposant. Il a promis de revenir dans son pays pour reprendre ses fonctions le 10 janvier. Notre correspondante Théo Conscience était avec les milliers de Vénézuéliens en exil venus le voir à Buenos Aires.
Sous l'immense drapeau argentin qui flotte sur la place de Mai, une nuée de drapeaux vénézuéliens. C'est pour défendre la démocratie au Venezuela qu'Irene Calcagno, 70 ans, dont 6 en exil en Argentine, est venue devant la Casa Rosada.
Notre président élu, Edmundo González Urrutia, est invité par le président Milei aujourd'hui. Nous sommes venus le saluer ici car nous ne pourrons pas assister à sa prise de pouvoir le 10 janvier.
Ici, tout le monde veut croire que Nicolas Maduro vit ses dernières heures à la tête du Venezuela. C'est ce qu'espère et attend Maria Estela Navarro pour pouvoir rentrer dans son pays.
Toutes mes affaires, ma famille, ma sœur sont là-bas. Mes enfants sont ici depuis 8 ans et je suis venue à cause de la situation politique. Mais j'espère pouvoir rentrer d'ici 2 ou 3 mois quand tout sera réglé.
Peu avant midi, Edmundo González Urrutia et Javier Milei apparaissent au balcon de la Casa Rosada. Les parents hissent leurs enfants sur leurs épaules, la foule exulte et entonne l'hymne national vénézuélien. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
On reste sur le continent américain où l'ancien président Jimmy Carter, décédé à l'âge de 100 ans le 29 décembre dernier, a entamé son dernier voyage dans son état natal de Géorgie où il jouissait d'une forte popularité. Les Américains qui le souhaitent peuvent aller se recueillir sur son cercueil jusqu'à mardi. Le président démocrate de 1977 à 1981 laisse à l'international l'image d'un pacificateur dont l'engagement humanitaire fut couronné par un prix Nobel de la paix en 2002. Son action pour la paix sur le continent africain avait été saluée. Jimmy Carter a d'ailleurs été le premier président des États-Unis à s'être rendu en Afrique subsaharienne, au Libéria notamment. Mais c'est au Maghreb que notre prochain sujet nous amène, au Maroc précisément, qui fait face actuellement à une épidémie de rougeole. Depuis octobre 2023, près de 20 000 cas ont été recensés et un peu plus de 100 décès. La moitié concerne des enfants de moins de 12 ans. Des chiffres divulgués cette semaine par le ministre de la Santé, dont le département se mobilise pour tenter de contenir cette urgence sanitaire, Mathias Reynal.
L'épidémie de rougeole continue de gagner du terrain. C'est désormais le nord du royaume qui est touché. La maladie se répand dans une population qui n'est plus assez immunisée. Le docteur Taïeb Hamdi est le vice-président de la Fédération nationale de santé au Maroc.
On a un problème de sous-vaccination, donc on n'atteint plus les objectifs. Le Maroc était champion de la vaccination des enfants, on atteignait toujours les 95-96%.
En cause, selon le ministre de la Santé, Amin Tahraoui, l'hésitation des familles à faire vacciner les enfants, mais aussi la pandémie de Covid-19 qui a perturbé le fonctionnement normal des systèmes sanitaires.
Il faudrait réactiver d'une manière systématique la surveillance épidémiologique. C'est le seul moyen pour pouvoir cerner les cas de rougeole et les foyers de rougeole avant leur propagation.
Le ministère de la Santé a ainsi lancé un plan de riposte contre la rougeole pour détecter rapidement les contaminations. Une campagne nationale de rattrapage vaccinal pour les mineurs est également en cours.
Le vaccin de la rougeole, c'est un vaccin qui est sûr, c'est un vaccin qui est très efficace, c'est un vaccin, une vaccination à 2 doses, ça protège pendant toute une vie.
Les professionnels de santé appellent à une mobilisation générale pour stopper la propagation de la maladie. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Un navire dont la cargaison inquiète mouille au large de la Côte d'Ivoire. Le bâtiment transporte du nitrate d'ammonium, une substance hautement inflammable et sous surveillance renforcée. C'est cette substance qui avait été à l'origine de l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Et ce bateau contient 7 fois le volume de nitrate d'ammonium qui avait endeuillé le pays du Cèdre. Le cargo pourrait même être victime d'avaries. En conséquence, son accès au port autonome d'Abidjan a été interdit jusqu'à nouvel ordre. Une réunion d'urgence est prévue ce lundi pour, je cite, un examen approfondi du sujet. Presque 3 semaines après le passage du cyclone Chido à Mayotte, la chef de file des députés du Rassemblement national, Marine Le Pen, se rend sur l'archipel aujourd'hui où elle prévoit de rencontrer secouristes et sinistrés. La mobilisation pour venir en aide à ces derniers continue à s'organiser en métropole, à la Bourse du Travail de Saint-Denis. C'est dans le nord de Paris. L'ONG Outre-mer Solidarité Catastrophe Mayotte collecte différents dons. Ils vont être acheminés, ces dons, par fret maritime du Havre au port de Longoni à Mayotte, ainsi que par les vols commerciaux qui ont repris. C'est toute une logistique à mettre en place jusqu'à la distribution de ces denrées, comme nous l'explique Siti Maliki, membre de cette ONG.
Le flux aérien commercial est ouvert. On va travailler sur cette possibilité de faire partir vraiment les plus urgents des urgents, qui est l'eau. On est en relation permanente avec le conseil départemental de Mayotte et aussi avec les associations locales, parce que les associations locales connaissent aussi où sont les personnes, parce qu'on parle beaucoup de personnes en situation illégale, même ceux-là, on les secours aussi. Parce qu'on parle des vies humaines. C'est vrai qu'il y a des endroits vraiment enclavés. Les routes ne sont pas déblayées. Ils sont jauchés des arbres déracinés par le cyclone. Donc, elles vont quand même apporter les repas à pied. Et nous, on compte vraiment sur l'appui des associations locales.
Siti Maliki, membre de l'ONG Outre-mer Solidarité Catastrophe Mayotte. Propos recueillis par Sylvie Coffi. L'actualité, c'est aussi Google qui annonce avoir versé 100 millions de dollars canadiens, l'équivalent d'environ 67 millions d'euros à des médias canadiens pour pouvoir utiliser leur contenu. Le géant californien de la tech a signé un accord avec le gouvernement canadien qu'il accuse par ailleurs d'abuser de sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne. Les détails avec Agnieszka Kumor.
C'est le collectif du journalisme canadien qui est chargé de récolter les fonds versés par Google. Un nouveau paiement est d'ailleurs prévu à la fin 2025. Cet accord s'inscrit dans un contexte de dégradation économique des médias. Ils ne peuvent pas tirer des profits des revenus publicitaires accaparés par Meta et Google, qui propose de la publicité ciblée aux annonceurs. Selon News Media Canada, représentant des centaines d'éditeurs, l'accord offre une rémunération très supérieure à ce qui se fait ailleurs. Chaque média pourrait ainsi espérer obtenir 20 000 dollars canadiens par journaliste. Contraindre les géants de la tech à rémunérer les médias pour les contenus d'information qu'ils relaient sur leur plateforme n'est pas chose facile. En 2021, l'Australie a voté une loi en la matière, mais Meta refuse de reconduire ses accords. Quant à Google, ses pratiques anticoncurrentielles dans la publicité et la recherche en ligne font l'objet de poursuites en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Précision signée Agnieszka Kumor. Allez, tout autre chose pour terminer. L'épiphanie est célébrée lundi. Demain, les galettes des rois font donc leur retour dans les vitrines des boulangeries. Et la galette, on l'aime quand elle est bien faite, mais surtout quand il y a du beurre dedans. Mais cette année, le beurre a augmenté de 40%, ce qui met en difficulté de nombreux artisans. Les explications avec Fabrice Poitier, il est président adjoint des boulangers de l'Essonne.
Là, on a une hausse considérable parce que par rapport à la dernière, on a quasiment doublé au niveau du prix du beurre. Donc ça, c'est vraiment un impact qui est énorme parce que la galette des rois, en fait, on peut considérer que c'est 50% de la galette, c'est du beurre. Donc, c'est assez problématique. Et donc, du coup, on doit rogner sur nos marges parce qu'on ne peut pas appliquer la hausse, quoi. Si la galette, ça devient un luxe, on va perdre nos clients au déprimant de la grande distribution. Et ça, c'est hors de question. On est en mode survie parce qu'on est impacté. On parle des matières premières, on parle de l'électricité, on parle du SMIC qui a considérablement augmenté. Et en fait, nos prix n'ont pas augmenté à la hauteur de ce qu'on aurait dû augmenter. Mais aujourd'hui, moi, j'ai un client un jour qui m'a dit si vous augmentez, malheureusement, on n'est plus chez vous. Ça, c'est pas trop cher. Je ne pourrais pas me permettre.
Fabrice Potier, président adjoint des boulangers du département de l'Essonne, au micro d'Arondel Rebecca. Voilà qui marque également la fin de cette édition, mais restez avec nous, l'actualité continue sur la Radio du Monde.
Grégoire Morelli.
Et à suivre durant les 15 prochaines minutes sur RFI, cette question, 2025 sera-t-elle l'année de la paix en Ukraine? Le règlement du conflit semble se rapprocher, mais quels scénarios sont sur la table concrètement? Nous verrons tout cela avec Franck Alexandre qui est allé sonder l'avis d'experts. On parlera aussi mathématiques et biodiversité, les thématiques peuvent sembler bien éloignées et pourtant les maths nous expliquent pourquoi la nature touche à la perfection. Mais avant tout cela, un mot du trophée des champions qui aura lieu ce dimanche entre le PSG et Monaco. Le premier grand rendez-vous de l'année pour les clubs français se tiendra à Doha, au Qatar. Un match reporté plusieurs fois et délocalisé donc dans l'Émirat. Cédric De Oliveira, cela prouve l'influence du pays sur le football hexagonal.
Esa es nuestra sensación.
On a la sensation de jouer à la maison, Luis Enrique ne s'en cache pas. Pour l'entraîneur du PSG, détenu par QSI, actionnaire qatarien, ce trophée des champions aura lieu presque à domicile. Et si les supporters des deux clubs ne feront pas le déplacement de 5000 km, pour Christophe Le Petit, économiste du sport, Doha était la solution la plus évidente à court terme.
Ce qui a orienté le choix vers Doha, c'est probablement qu'il y a eu une offre financière du Qatar qui était supérieure à... Sans compter les sujets organisationnels, le Qatar, depuis 10 ou 15 ans désormais, organise très régulièrement ce type d'événement. Donc c'est des choses qui sont très rodées côté qatari.
Prévu au départ en août en Chine, l'événement pensé comme une vitrine du foot français à l'étranger a été reporté plusieurs fois. D'autres pays comme la Côte d'Ivoire étaient intéressés. Et pour Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport, ils auraient offert une autre exposition.
Si on réfléchit en termes de développement du produit Ligue 1, évidemment, il ne fallait pas aller au Qatar. Vous êtes sur un petit marché. Si on voulait internationaliser, il fallait aller ailleurs. Il y avait l'hypothèse asiatique plus large qui était sur la table, mais surtout une hypothèse ivoirienne avec un vrai financement. Et puis très rapidement, le Qatar a surenchéri. Pour le football français, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des stratégies.
Pour rafler la mise, le Qatar aurait mis 3 millions d'euros sur la table, suffisant pour s'inscrire dans une logique que l'Émirat suit depuis plus de 15 ans, selon Christophe Le Petit.
Le Qatar comme d'autres pays, instrumentalise le sport à des fins de soft power et à des fins géopolitiques. Donc il ne faut pas s'étonner de voir le trophée des champions français avoir lieu dans ce type de pays, ça fait partie de leur stratégie.
Alors que le foot français se serre la ceinture après des droits télé revus à la baisse, les liens entre le Qatar et la LFP n'ont jamais semblé aussi forts et font craindre un conflit d'intérêts. Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, est notamment au conseil d'administration de la LFP et dirigeant de beIN Sports, l'un des diffuseurs de la Ligue 1. Pour Jean-Baptiste Guégan, c'est le signe que Doha a l'ascendant.
Alors aujourd'hui, le Qatar exerce un rapport de force. Avant, il était une solution, aujourd'hui, il peut être un problème. Il fait valoir ses intérêts là où avant, ses intérêts servaient le football français. Donc la Ligue 1 n'est pas un atout pour lui, c'est finalement une sorte d'élément de son fonds de commerce. Et on peut se dire que aujourd'hui, ils sont plus à essayer de maintenir une position qu'autre chose, sachant qu'elle est clairement acquise dans le cadre du football français. Et c'est ce que nous dit aussi le fait que le trophée des champions se déroule à Doha.
À l'avenir, le Qatar devrait tenter de poursuivre sa stratégie de soft power avec d'autres compétitions. Le pays redoute de se faire distancer par son voisin, l'Arabie Saoudite, qui organisera notamment la Coupe du Monde de football en 2034.
Cédric Deolivier verra pour ses précisions. Le match entre le PSG et Monaco, ce sera donc aujourd'hui, dimanche, à partir de 16h30, temps universel. 2025 sera-t-elle synonyme de paix en Ukraine? Après bientôt 3 ans de guerre et peut-être près d'1 million de soldats tués ou blessés des deux côtés du front, les belligérants sont exsangues. Et si les conditions d'un règlement du conflit semblent se rapprocher, quels scénarios sont sur la table? On voit ça avec Franck Alexandre.
Difficile pour l'Ukraine de continuer le combat. En ce début 2025, le rapport de force ne lui est pas favorable et les États-Unis, son principal soutien, pourraient se défausser. Le cessez-le-feu n'est pas loin, estime Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Très certainement, on ira vers un cessez-le-feu, parce que le président des États-Unis le veut, et parce que je pense que les belligérants peuvent y trouver un intérêt. Les Ukrainiens, parce qu'ils sont en difficulté sur le terrain, les Russes, pour obtenir leurs gains.
Mais l'ouverture de pourparlers ne fait pas nécessairement taire les fusils, car souvent, pendant les travaux, la vente continue, ironise le diplomate Jean de Glignasti.
Comme une des deux parties ne souhaite pas le cessez-le-feu, d'abord parce qu'elle marque des points, c'est la Russie, et puis d'autre part, la Russie, elle veut un traité de paix qui consolide ses acquis territoriaux. Alors que les Ukrainiens, maintenant que Trump est là, ils souscrivent à l'idée d'un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu provisoire, puisqu'ils se réservent la possibilité de récupérer leur territoire, soit par la diplomatie, soit par la guerre. Donc ici, il y a deux positions différentes, et il est clair que pendant qu'on mettra ça au clair, la vente continue, c'est-à-dire, hélas, la guerre, et les morts et les blessés et tout ça.
Difficile dans ces conditions de trouver un chemin vers la paix, raison pour laquelle la question des garanties de sécurité offertes à Kiev est cruciale, insiste le géopolitologue Pascal Boniface.
Si l'Ukraine est contrainte de céder des territoires, on peut aussi comprendre qu'ils ont besoin de garanties pour l'avenir, parce qu'ils ont une confiance très modérée dans les promesses de Poutine. La présence dans un pays qui n'est plus en guerre contre la Russie de troupes françaises et britanniques pourrait avoir un effet dissuasif par rapport à la Russie.
Donald Trump a prévenu, même en cas d'accord de paix définitif, il n'enverra pas de soldats. Alors tous les regards, et à raison, se tournent vers Paris et Londres, décrypte Jean de Glignasti.
Au moment de l'ersatz d'accord de paix d'Istanbul, il était prévu qu'il y ait des garanties des pays membres du Conseil de sécurité. Et il se trouve que, membres du Conseil de sécurité, la France et l'Angleterre sont aussi membres de l'OTAN. Donc c'est une façon de contourner ce qui est un non possumus, c'est-à-dire une impossibilité pour les Russes qui ne peuvent pas accepter que l'OTAN en tant que telle garantisse l'Ukraine et joue un rôle dans la paix en Ukraine.
Il est aussi possible qu'en 2025, la guerre continue. Toute pression pour des négociations trop tôt nuise à l'Ukraine, estime ainsi Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne.
Franck Alexandre, il est 4h17 en temps universel. Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio du Monde et ce matin, on s'intéresse à des thématiques qui n'ont sans doute rien à voir de prime abord. On parle de chiffres et de biodiversité. Les maths illustrent pourquoi la nature touche à la perfection. On voit tout cela avec Laurent Guignard.
4, 4 et 4, 8.
Bon là c'est assez simple, mais connaissez-vous la suite de Fibonacci où chaque nombre est la somme des deux nombres qui le précèdent?
Donc on part de 1 et 1, puis 2, puis 3, parce que 3 c'est égal à 2 plus 1, puis 5 égal à 3 plus 2, Et on continue ainsi, 8, 13, 21.
Gaëlle Chani, mathématicienne à l'Université de Rouen, nous parle de son lointain confrère italien, Leonardo Fibonacci, auteur d'un livre majeur en 1201.
Le but, c'était de populariser l'usage des nombres arabes, parce que jusque-là, on utilisait plutôt les chiffres romains. Et donc, la suite apparaît dans ce livre comme un exercice pour modéliser l'évolution d'une population de lapins.
Oui, mais à part les lapins, quel est le rapport avec la nature ?
Les nombres de Fibonacci apparaissent de manière un peu surprenante au premier abord dans la nature. Si vous observez les écailles sur la peau d'un ananas, vous avez deux réseaux de spirales qui tournent dans deux sens différents. Et si on compte ces spirales, on trouve deux nombres de la suite de Fibonacci consécutifs.
Les nombres de Fibonacci se retrouvent sur 96% des plantes présentes sur Terre des millions d'années avant le génial mathématicien.
Il n'avait aucune idée du fait qu'on allait retrouver des nombres de Fibonacci dans la nature. Ce sont des travaux de phylotaxie, la science qui étudie les arrangements géométriques des végétaux, qui font apparaître les nombres de Fibonacci dans la formation des plantes et des fleurs.
La fleur du tournesol, composée en réalité de centaines de petites fleurs, révèle même le nombre d'or, la divine proportion, Gaëlle Chani.
Les mini-fleurs, les fleurons, vont se former de manière successive en tournant autour du centre de la fleur, avec un angle donné qu'on appelle l'angle de divergence. L'évolution a sélectionné cet angle de divergence-là parce que c'est ce qui permet de placer le plus de fleurons dans le capitule de la fleur, dans le cœur de la fleur, pour disséminer le plus de graines possible après. D'un point de vue mathématique, on s'aperçoit que ce modèle est construit avec un angle de divergence égal à l'angle d'or, donc 1 sur phi, où phi est le nombre d'or.
La perfection est dans la nature, CQFD. CQFD, SOS, le monde est HS, mais RAS, il n'y a pas de SAV, pas de contrôle Z sur le clavier. Dis-moi lequel d'entre nous est prêt à changer. CQFD. On passe à la question.
Dis, tu nous racontes une belle histoire pour bien commencer l'année ?
Ok, c'est l'histoire de Talekwa, une femelle orque devenue célèbre en 2018 pour un geste d'amour immodéré. Elle avait porté sur son dos la dépouille de son nouveau-né pendant 17 jours, refusant qu'il coule au fond du Pacifique au large du Canada. Mais séchez vos larmes parce que la suite de l'histoire est tout aussi belle. On vient de revoir Talekwa, accompagnée d'un petit bien vivant cette fois. C'est une femelle et c'est une excellente nouvelle pour cette population des polars dans cette région. Ils sont moins de 100 aujourd'hui.
Florent Guignard pour la chronique C'est dans ta nature. Cet épisode et tous les est présents. Les précédents, bien sûr, sont à retrouver sur notre site rfi.fr. Le droit au compte, une procédure permettant à toute personne physique ou morale, sous condition de bénéficier d'un compte bancaire, et cela concerne toutes les personnes domiciliées en France, mais aussi toute personne de nationalité française résidant hors de l'Hexagone. Ainsi, en cas de fermeture de leur compte dans des banques françaises, les expatriés peuvent logiquement user de ce droit à leur compte pour en ouvrir un nouveau. Mais Corinne Manjou, les choses ne se passent pas toujours comme prévu.
Les Français de l'étranger sont de plus en plus nombreux à se plaindre de la fermeture abusive de leur compte dans les banques françaises. Il existe pourtant un droit au compte qui s'applique à tout Français pour avoir un compte bancaire en France, mais à certaines conditions. Charles-Henri Chenu, avocat spécialiste de l'expatriation.
Les premières qui sont très simples, c'est justifier de votre identité de Français, une copie de pièce d'identité, justifier de votre domicile de moins de 3 mois, et puis justifier d'une lettre de refus de votre banque d'origine d'ouvrir un compte, si vous n'en avez pas du tout, ou de maintenir votre compte.
Pourtant, les expatriés ne sont pas à l'abri d'une fermeture de leur compte bancaire, comme l'explique Evelyne Renaud-Garibédian, sénatrice des Français de l'étranger.
Les Français qui vivent à l'étranger, leur compte en France, ils ne veulent pas le fermer. Ils ont les enfants qui peuvent venir en France. Ils ont peut-être un parent qui vit en France. Ils ont peut-être des loyers qu'ils encaissent en France. Ils ont peut-être même les pensions qui sont encaissées sur des comptes français ou bien les remboursements de sécurité sociale. Ils arrivent à l'étranger, ils sont dans des pays sans problème particulier, et ils continuent à garder leur compte. Alors là, il se peut que les banques françaises décident de fermer leur compte, peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment de maniement de fonds, parce que le compte ne fonctionne pas suffisamment. Mais ce ne sont pas des raisons particulières.
Charles-Henri Chenu.
D'un autre côté, vous avez les banques françaises qui sont contraintes par cette fameuse loi de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes et demandent, notamment lorsque vous habitez à l'étranger dans des pays dits à risque, de justifier la provenance des fonds avec la production d'une kyrielle de documents à produire. Ces banques françaises, lorsqu'elles considèrent que vous n'avez pas suffisamment transmis cette documentation, peuvent, sans motif, fermer vos comptes.
La banque n'est par ailleurs pas obligée de motiver la fermeture d'un compte. Evelyne Renaud-Garabédian.
Juridiquement, les banques françaises n'ont aucune obligation d'indiquer à leurs clients les raisons de fermeture des comptes bancaires. Aucune raison. Il y a simplement un préavis de 60 jours que la banque doit en respecter pour dénoncer et demander la résiliation du compte bancaire du Français qui vit à l'étranger ou du Français qui est en France.
Les expatriés peinent à faire valoir leurs droits au compte sans lettre officielle de refus de leur banque. Les pouvoirs publics ont dû intervenir pour faciliter les choses. Charles-Henri Chenu.
Souvent, les banques ne voulaient pas transmettre cette lettre de refus. Et ça bloquait le processus du droit au compte auprès de la Banque de France. Notre ministre des Finances, saisi par les sénateurs des Français de l'étranger, s'est prononcé en créant, en instaurant un système de refus implicite. C'est-à-dire que lorsque vous êtes Français de l'étranger et que votre banque ne se prononce pas dans les 15 jours de votre demande, on considère que ce refus implicite vaut refus effectif. La banque n'a pas répondu dans les 15 jours. À ce moment-là, la Banque de France va désigner d'office un établissement bancaire qui devra vous ouvrir à vous, Français de l'étranger, votre compte bancaire en France sous 3 jours.
Le refus vient parfois aussi des Français de l'étranger qui trouvent que le droit au compte n'est pas une solution. Evelyne Renaud-Garabédian.
Le droit au compte existait au début du siècle pour ceux qui avaient fait des chèques sans provision, pour les interdits bancaires. Donc, elle donne uniquement accès à des services bancaires de base. Et vous n'avez pas le droit à un carnet de chèques, vous n'avez pas le droit à une carte de crédit. Donc, ce droit au compte n'est pas une solution.
Les Français de l'étranger usent très peu de ce droit aussi par méconnaissance. Après notification de la fermeture de leur compte bancaire, les expatriés ont légalement 2 mois pour agir. Une proposition de loi a été déposée au Sénat qui demande de passer ce délai à 4 mois.
Corinne Manjou pour cette chronique Vivre ailleurs. Je vous propose désormais de terminer en musique avec ce morceau de Véronique Sanson et Vianney, chanson sur ma drôle de vie.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai les idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie.
Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours.
Et si je te pose des questions,
qu'est-ce que tu diras?
Et si je te réponds,
qu'est-ce que tu diras?
Si on parle d'amour,
qu'est-ce que tu diras?
Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie.
Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours.
Si je te pose des questions,
qu'est-ce que tu diras?
Et si je te réponds,
qu'est-ce que tu diras?
Si on parle d'amour,
qu'est-ce que tu diras?
Et si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. Quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi.
Véronique Sanson et Vianney avec cette chanson sur ma drôle de vie pour clore cette demi-heure d'information. À la réalisation, c'était Michael Verne, à la rédaction en chef Léa Boutin-Rivière. Le prochain journal d'ici une minute.
Dans un monde en constante évolution, une valeur reste essentielle, la confiance, comme celle que vous nous offrez chaque jour.
À l'antenne ou sur le web, l'idée c'est d'être le plus transparent possible sur notre façon de travailler, mais aussi sur les outils techniques que l'on utilise durant notre
processus. Sur tous les continents, où que vous soyez, dans nos éditions d'information et nos magazines, nous plaçons votre confiance au cœur de notre mission.
Votre confiance, notre raison d'être.
Bonne année 2025 sur RFI.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Michel Jean qui publie Djiu Djiagé, qui veut dire
Montréal, en Moa, langue des autochtones. Journaliste canadien d'origine Innu qui œuvre pour la mémoire et la connaissance autour de ces peuples premiers qui ont été colonisés, dépossédés, assimilés.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Tout à l'heure, à 15h10 TU et en podcast sur RFI.fr.